La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Alors nous allons lire deux textes. Le premier se trouve dans Acte 9 et nous lirons le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, « Va, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Le deuxième texte, 1 Pierre 2 au verset 9. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Amen.
Je vous apporte les salutations de nos frères et sœurs de Guadeloupe, où j'ai pu, avec l'équipe de l'Union, me rendre la semaine dernière, où nous avons participé au 7e symposium et à la fin d'une grande campagne d'évangélisation avec 158 baptêmes communs, mais aussi de la grande île rouge de Madagascar, où j'ai pu me rendre pour une mission de ADRA. Et c'était vraiment un sabbat particulier, parce que même si ce n'était pas l'intention, la coïncidence a fait que nous avons été présents pour la grande célébration des 100 ans de l'entrée de l'adventisme dans l'île de Madagascar. Voilà. Là, ça passe. C'est le grand amphithéâtre de la propriété de l'Union. Il y a un amphithéâtre où plus de 10 000 personnes peuvent se réunir. La chaleur faisait que il y avait presque autant de parapluies pour protéger du soleil que de personnes. Mais pourquoi je vous parle de cela? Parce que il y a 100 ans, un colporteur qui venait des Maurices, qui venait en congé, avait avec lui le livre « Meilleur chemin ». Et dans le bateau, il a trouvé quelqu'un qui se débattait avec sa Bible. Et il a eu un moment d'hésitation, nous raconter la personne qui faisait l'histoire. Mais il a prié et il a pris le courage de donner ce livre à sa vie. Et il a pris le courage de donner ce livre à cette personne dans ce bateau. Et c'est de cette façon très simple que le message est rentré dans l'île de Madagascar. Et aujourd'hui, avec des histoires incroyables de missionnaires qui sont partis aussi d'ici de France, missionnaires... je dirais visionnaires, teigneux aussi, aujourd'hui sont plus de 200 000 adventistes sur l'île, parce que cela fait vraiment un changement dans la vie des gens. Et je vous invite à reprendre les deux textes qui nous servent de base à la réflexion de ce matin. Et le premier, dans le livre des Actes, dans la version NBS, il nous dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois comme devant les Israélites. Une mission qui est donnée pas seulement à l'intérieur, du peuple de Dieu, mais en particulier à l'extérieur. Le deuxième texte, en Pierre, il va nous dire, vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Le Seigneur nous a acquis avec une intention très claire. Et si nous regardons ces deux textes, nous pouvons dire qu'il y a presque deux principes en opposition. Un nous parle d'une vocation unique, et l'autre nous parle d'une vocation universelle. Et tant l'Ancien Testament que le Nouveau, même si cela est beaucoup plus évident dans ce dernier, il y a deux principes apparemment en contradiction. Cependant, j'espère qu'à la fin nous puissions comprendre qu'ils sont complémentaires. Et encore aujourd'hui, nos églises de nos jours ont besoin. Le premier, ce caractère unique, singulier, personnel, collégial du ministère du sacerdoce universel auprès du peuple de Dieu. Et le ministère du sacerdoce universel du peuple de Dieu tout entier. Les deux sont bien des vocations d'appel de la part de Dieu. Le premier, cette vocation ministérielle individuelle, c'est ce que j'appelle le ministère institution. Bien qu'au premier abord, à l'époque des patriarches, il n'y avait pas de caste ou de tribu sacerdotale, il était établi que le premier-né de chaque famille soit offert au Seigneur comme le chef spirituel ou le prêtre, afin d'offrir des sacrifices. Mais à partir de l'Exode, l'Éternel a décidé de choisir l'une des 12 tribus, celle de Lévi, et parmi elles, la famille d'Aaron, qui devait s'occuper des services du culte et du sanctuaire, laissant les autres familles de la tribu, les Lévites, au service des différents ministères du tabernacle. De cette façon est né en Israël le sacerdoce et les Lévites en tant qu'institution. Il y avait en eux un appel personnel, mais c'était un ministère presque héréditaire, qui devait être exercé sur la base de l'appartenance à une tribu et à une famille du peuple. En ce qui concerne le Nouveau Testament, l'institution ministériel n'est pas établi sur la base de l'appartenance d'une famille ou à une famille particulière, mais à la vocation individuelle que chaque ministre reçoit de Dieu lui-même et qu'elle est reconnue éventuellement plus tard par l'Église, en particulier par l'imposition des mains. Par le choix aussi des fidèles, de ceux et celles à qui sont confiés des ministères différents, particuliers pour servir les communautés locales qui sont également consacrées par l'imposition des mains. Et cette reconnaissance par l'Église, elle est vraiment importante parce que c'est elle qui définit. Le caractère singulier, unique, personnel, individualisé du ministère chrétien, tout comme vocation, comme fonction, ainsi que son statut d'institution collégiale, le corps des serviteurs au sein de la communauté, sont mis en évidence dans d'innombrables déclarations des écrivains du Nouveau Testament. Par exemple, en ce qui concerne l'apôtre Paul, lui, il va se définir par cet appel et la volonté de Dieu. Mais nous avons à chaque fois des présentations qu'il nous fait et il nous montre combien cet appel de Dieu était important dans le ministère qu'il exerçait. Que ce n'était pas quelque chose que lui a voulu ou qu'il a cherché ou que lui l'a défini, mais que c'était par l'appel de Dieu et que lui, il voulait le servir. Galates chapitre 1, verset 15 nous dit « Mais quand il a plu à Dieu, qui m'a mis à part depuis le ventre de ma mère et qui m'a appelé par la grâce, par sa grâce. » Mais en même temps, cela se démontre par l'intervention de l'Église dans la consécration et l'imposition des mains. Même si aujourd'hui, on discute beaucoup les questions de la théologie de l'ordination. Mais les différents textes nous le montrent. Acte 13, 23 dit « C'est de sa descendance que Dieu, selon sa promesse, a fait venir Jésus comme sauveur pour Israël. » Plus tard, à 1 Timothée chapitre 4, verset 14, « Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi et qui t'a été accordé par un message de prophète avec l'imposition des mains du collège des anciens. » Oui, c'est bien cette intervention de l'Église qui donne cette reconnaissance. Mais aussi pour leur qualité, quand on regarde ce qui se passait à l'Ancien Testament, qualité souffrance particulière. Par exemple, 2 Corinthiens 6, 3, où nous montre que nous ne donnons aucun sujet d'achoppement à personne pour que le ministère ne soit pas pris en défaut. La responsabilité individuelle devant ce ministère auquel nous sommes appelés. Mais par la distinction aussi qui est faite entre les autres membres d'Église. Et c'est vrai que de nos jours, des fois, il y a tellement la tendance de niveler le tout qu'il n'y a plus de distinction entre les différents appels. Mais quand on regarde le Nouveau Testament, nous le voyons bien qu'il y a une différence, une distinction et à laquelle nous sommes appelés à faire attention. Mais à côté de ce ministère spécial, individualisé, collégial, la Bible nous présente également et de façon explicite le ministère du corps entier de tous les croyants, le ministère de tous les membres du peuple de Dieu. Il s'agit ici d'un concept biblique reconnu comme le sacerdoce universel de tous les croyants. Ceci est confirmé que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau. Et vous pouvez le constater en Exode, même Ésaïe, chapitre 61, verset 6. Mais dans le Nouveau Testament, le mot prêtre, sacerdote, a de la même manière que celui de roi, est toujours utilisé comme un terme collectif, au pluriel, référant l'ensemble des membres, l'ensemble du peuple de Dieu. Et j'aimerais partager avec vous une citation du livre « Ministère évangélique » qu'Ellen White a écrit il y a plus de 100 ans. Elle dit: l'œuvre de Dieu sur cette terre ne sera pas achevée à moins que les hommes et les femmes qui composent nos églises ne se mettent au travail et unissent leurs efforts à ceux des prédicateurs et des membres officiants de l'Église. Regardez bien que même si on regarde les deux concepts bibliquement et peuvent paraître en opposition, Ellen White, parlant du temps de la fin, elle est très claire en disant qu'ils ne sont pas ni en opposition ni en compétition, mais ils sont complémentaires. Ce texte, il nous dit que l'œuvre de Dieu sur cette terre, elle sera terminée quand les deux seront ensemble, uniront leur effort à travailler dans le champ que le Seigneur nous accorde. Le ministère universel théorique est pertinent. Et là, nous aimons beaucoup, en particulier ici en France, le terme laïque. Mais le mot laïque a une signification particulière de nos jours, surtout ici. Il met en opposition tout ce que c'est séculaire, temporaire, profane, laïque, à tout ce que c'est religieux. Le mot distingue ceux qui ont une étroite relation de dépendance au service de l'Église et ceux qui ne l'ont pas. Le dictionnaire de synonymes Webster met ensemble tous ces mots, séculaire, temporaire, profane. Mais le Conseil œcuménique des Églises, dans un rapport de la commission préparatoire de l'étude sur la laïcité, ils vont définir comme ceci. On comprend par laïcité le vaste corps de membres de l'Église qui consacrent leur vie dans ce que nous appelons une profession séculaire qu'absorbe la majorité de leur temps. Cependant, nous savons tous que quand nous regardons ce qui se passe dans la Bible, le terme « laïkos » ne désigne pas un groupe spécifique de membres d'Église, mais simplement tous ceux qui appartiennent au laos, à savoir le peuple élu de Dieu, par rapport à ceux qui n'en font pas partie. Dans ce sens, même les pasteurs sont également laïcs, parce qu'ils appartiennent eux aussi au peuple de Dieu. Mais le terme clergé et ses dérivés de nos jours est attribué en opposition aux laïcs. C'est ceux qui consacrent, comme nous l'avons vu, toute leur vie au service de l'Église. Mais là encore, la parole de Dieu n'indique pas ici, par le terme cléros, un secteur ou un groupe de l'Église, mais tous ceux qui sont appelés. Tous ceux qui sont appelés à rejoindre le peuple de Dieu. Et par conséquence, tous ceux qui aujourd'hui se sentent appelés au salut. La terminologie a été, comme on le voit, dans le temps objet d'une évolution dans un sens très, très important. Les laïcs et les ministres dans l'Église aujourd'hui, des fois en pleine opposition, mais ce n'est pas exactement cela que la Bible nous le présente. Quelle est la réalité sociologique qui existe dans l'Église aujourd'hui? Disons-le clairement, c'est une parodie de ce que c'était l'Église. Dans l'Ancien Testament. Le pasteur est une espèce d'infanterie. Des fois, amener seul le combat de la bataille pour Dieu. L'avant-garde dans la première ligne de feu. C'est le, pour parler dans un langage plus moderne, c'est bien souvent le gérant de la société, l'homme public, qui travaille pour Dieu, pendant que les autres restent dans l'anonymat, qui soutiennent par les ressources, mais pas toujours impliqués dans le travail. Cette attitude conduit dans beaucoup d'églises, je dirais, à une attitude un peu irresponsable à l'égard de la mission personnelle que chaque membre, chacun de nous doit entreprendre. On ne peut pas confier à une partie, on ne peut pas confier uniquement à certains la mission qui nous est confiée. Parce que cela nous mène à que nous perdons l'opportunité personnelle de vivre des expériences extraordinaires que le Seigneur veut nous faire vivre par cette expérience de témoignage. Parce que nous ne pouvons pas confier notre salut uniquement à certains. L'évangélisation et la mission, elle doit être intentionnelle. Elle doit être voulue. Elle n'arrive pas juste parce que nous avons une idée, mais nous ne nous engageons pas. Chaque église a besoin d'avoir son projet d'évangélisation. Mais chaque membre a besoin de lui aussi avoir son projet de mission, là où il est, là où il vit, avec qui il partage les émotions de chaque jour. L'Église primitive n'était pas ainsi. Les textes du livre des Actes nous montrent que pour eux, la mission était au cœur de leur vie. Pour eux, la mission était au centre de leur existence. Arnac, un historien de l'Église, en regardant l'Église primitive, il va écrire en disant que les missionnaires les plus nombreux et qui ont eu le plus de succès dans la religion chrétienne n'étaient pas les prédicateurs réguliers, mais les chrétiens eux-mêmes. Des premiers, nous savons très peu de leur réussite, mais des secondes, nous en savons beaucoup. Avant toute autre chose, chaque martyr était un missionnaire. Non seulement il renforçait, la foi de ceux qui déjà gagnaient, mais ils rajoutèrent des nouveaux membres à l'Église par leur témoignage et le martyre. Edward Gibson, lui aussi, il a parlé exactement de la même manière. Et il disait, ce fut un devoir sacré pour tout nouveau croyant de répandre parmi ses amis et voisins les mêmes bénédictions qu'il avait reçu. Et cela me mène à vous poser une question. Ça date de quand, la dernière fois, que d'une façon intentionnelle, vous avez partagé l'Évangile avec quelqu'un? Oui. Cette situation nous mène à que le membre d'Église est devenu dans une large mesure, un spectateur professionnel. Sans être impliqué, le pasteur peut être le chef d'orchestre. Ou alors, on est tous engagés, mais vers l'intérieur de l'Église. Beaucoup de programmes, beaucoup de choses qui nous mènent à être confortablement à l'intérieur de l'Église. N'oublions pas que nous vivons dans une culture du spectateur. Ce qui attire de grandes foules, ce qui remplit les stades, ne sont pas les sports dont on participe, mais les sports qui donnent du spectacle. Il y a une véritable addiction à la télévision, à l'ordinateur, aux écrans, comme on dit. Cela correspond, par exemple, en Amérique, à plus de 6 heures par jour de dévouement au petit écran, sans aucune interaction individuelle avec les autres. Et par analogie, En ce qui concerne l'Église, le pasteur devient l'acteur professionnel et nous tous devenons des spectateurs. Regardez ce qu'Ellen White disait en 1897. Et je suis bien content que ce soit elle qui le dise. Les membres de l'Église sont habitués à entendre la prédication et à faire très peu pour le Christ. Ainsi, au lieu de produire des fruits, sont en train de développer. Ainsi, au lieu de produire des fruits, sont en train de développer l'égoïsme et l'infidélité. Ils ont mis leur espoir dans le prédicateur et dépendent de leur effort pour garder vivante leur faible foi. Mais les téléspectateurs professionnels deviennent presque toujours des critiques professionnelles de ce que les autres font. C'est beaucoup plus facile de critiquer que de s'impliquer. La critique génère un esprit négatif, peu favorable, produit le découragement chez ceux qui travaillent, paralyse l'activité missionnaire. L'Église en général et le croyant en particulier sont ceux qui poursuivent dans le temps et l'espace l'œuvre rédemptrice du Christ dans le monde. Et c'est pour ça qu'il a dit en Jean chapitre 17, verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Est-ce que nous avons cette conscience de l'envoi, cette conscience de l'appel que quand nous sommes appelés au salut, nous sommes appelés aussi à une mission, à partager avec les autres. Il nous envoie pour accomplir le même ministère que le Christ a eu sur cette terre. Et permettez-moi de vous le dire que pour moi, la première grande dimension, c'était ce ministère d'identification, ce que j'appelle le ministère d'incarnation. Je sais que le mot n'existe pas en français, mais vous le comprenez. L'œuvre rédemptrice de Jésus commence au moment de son incarnation. Christ est devenu homme. Il a assumé l'humanité avec toutes ses faiblesses, toutes ses problématiques. Il n'est pas venu dans le monde comme Adam quand il est sorti de la main du Créateur, mais avec cet héritage. Parce que par là, il nous le dit, Romains chapitre 8, verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair. Il était tout comme nous, sauf dans le péché. Il s'est approché de nous, de nos misères. Il s'est identifié avec nos douleurs. Il a porté sur ses épaules nos fardeaux. L'incarnation n'est pas seulement un miracle, c'est un ministère que l'Église est appelée à imiter. Le ministère de l'identification avec les souffrances de ce monde. Regardez bien que Ellen White le dit en le ministère de la guérison, que la seule méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulager en gagnant leur confiance. Puis il leur disait, suivez-moi. En gagnant leur confiance, puis il leur disait, suivez-moi. C'est ainsi que par des efforts personnels, il faut entrer en rapport intime avec les gens. On obtiendrait certainement de meilleurs résultats si on passait moins de temps à prêcher et davantage à visiter les familles, à secourir les pauvres, à soigner les malades, à réconforter ceux qui sont dans la peine, à instruire les ignorants, à conseiller ceux qui manquent d'expérience. pleurons avec ceux qui pleurent. Réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Avec la puissance que donne la conviction de la prière et l'amour de Dieu, pour que l'œuvre ne revienne jamais stérile. Deuxième aspect, c'est que le Christ développait un ministère d'amour et de compassion. Lorsqu'il a voulu présenter à ses contemporains son œuvre messianique, il a utilisé le texte de ses contemporains, son œuvre messianique, il a utilisé le texte d'Ésaïe, un texte extraordinaire qui souligne son ministère d'amour et de compassion. Un ministère de réconciliation et de salut. Le Christ est venu sur cette terre pour réconcilier ce qui était perdu, est venu pour réconcilier la créature au transcendant, parce qu'il s'est considéré lui-même comme un serviteur de l'humanité. Quel est le résumé du ministère de l'Église et de tous les croyants? Je dirais témoignage et communion. Oui, pour moi, ces deux mots résument beaucoup ce qui doit être notre ministère. Témoignage. Les dernières paroles de Jésus enregistrées dans le Nouveau Testament font précisément l'invocation de l'ordre du ministère de l'Église. Vous serez mes témoins. Mes témoins de quoi? Témoins de l'expérience du salut, témoins de l'œuvre de Jésus, témoins de la puissance de la parole de Dieu encore de nos jours, témoins de l'amour de Dieu et de sa providence, témoins de la foi, de l'espérance et de la charité. Il y a quelques années, je dirigeais un camp d'évangélisation dans le sud du Portugal. Et une jeune fille, 17 ans, est venue me voir et elle disait, mais moi, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas m'approcher des gens. Je ne sais vraiment pas comment faire et quoi leur dire. Et on a commencé à discuter. Elle m'a raconté toute son expérience avec le Seigneur. Elle était toute seule parce que sa famille n'était pas croyante. Elle avait vécu une transformation extraordinaire. Et moi, je lui disais, tu vois, tu viens de me montrer tout ce que tu dois dire, tout ce que tu dois transmettre. C'est ton vécu, ton témoignage. Même si elle n'était pas très convaincue, elle est partie. Et quelques minutes plus tard, elle est venue avec un grand sourire et elle me dit, « Mais, et tu sais que ça marche ?»« Oui, parce que le même Dieu d'amour, le même Dieu qui avait tout le pouvoir il y a 2000 ans, c'est le même qui vous donne et qui nous donne tout le pouvoir aujourd'hui pour que notre témoignage ait de la puissance. » Ce n'est pas par nous, mais c'est par lui. Mais c'est pour ça que nous avons besoin de ce deuxième concept, la communion. Parce que si nous ne sommes pas en communion avec lui, alors nous n'avons rien à dire. Si nous n'avons pas vécu cette expérience personnelle, si nous ne la construisons pas tous les jours, alors notre témoignage va être faible. Être membre d'Église, être chrétien, signifie être témoin du Christ, signifie vivre en parfaite communion et identification avec le Christ, en faisant ce qu'il ferait s'il était à notre place. Pour cela, nous sommes tous ministres du Christ. Nous ne pouvons pas renoncer à l'engagement missionnaire comme quelque chose qui est réservé à certains uniquement. Parce que les fruits d'une compréhension correcte du ministère de tous les croyants n'est possible que par la capacité de bannir certaines fausses idées, qui représentent des obstacles au ministère. L'Église n'a pas un ministère, l'Église est un ministère. Nous aimons tous diviser tellement les choses. Constamment, je reçois des appels ou des emails au bureau qui me demandent « Mais pourquoi vous n'organisez pas le ministère des hommes ?» Et on démultiplie, on démultiplie. Et presque que les ministères rentrent en compétition à la place de montrer cette unité dont on en parle et qui doit dépasser les obstacles réels du ministère de l'Église. Le ministère de la parole, de l'amour, ils en font qu'un seul. Le ministère qui implique tous les membres fidèles dans le cadre de l'Église, ce n'est pas au pasteur, mais à tous les membres, pasteur inclus, qui encombre l'essentiel du travail à faire dans ce monde. Le Nouveau Testament nous montre cette responsabilité première pour l'accomplissement des desseins de Dieu dans ce monde. Il relève des bergers, il relève de ceux qui ont vécu et qui vivent l'expérience de la transformation et du salut. Le champ n'est pas l'Église, mais le monde entier. Et cela me paraît de plus en plus important, parce que des fois, nous avons presque la tendance de pêcher dans l'aquarium. C'est beaucoup plus simple. C'est plus petit et on sait que là-dedans, il y a toujours quelqu'un qui va mordre l'hameçon. Mais c'est beaucoup plus compliqué de pêcher dans l'océan ouvert. Là, c'est où il y a les vrais défis. Le point culminant de la vie de l'Église ne sont pas les services de sabbat, mais ce que je fais durant la semaine, là où j'existe. Ce n'est qu'une grave erreur dans le livre éducation. Ce n'est qu'une grave erreur d'imaginer qu'à moins qu'un jeune homme ait décidé de se dévouer au ministère, il n'est pas nécessaire de lui assurer une formation spéciale pour se préparer à l'œuvre de Dieu. Oui, Ellen White, elle nous incite à que nous soyons capables de préparer nos jeunes aussi, de préparer tout le monde à avoir les conditions pour que chaque église soit, comme elle dit, une école de formation pour les témoins chrétiens. L'Église doit fonctionner comme un séminaire. Le travail du Seigneur, dit Ellen White, est retardé par un manque de foi criminelle en sa puissance à utiliser le commun des mortels pour faire avancer son œuvre avec succès. Avant d'utiliser cette citation, j'ai dû la lire plusieurs fois. Parce que, surtout le mot qu'elle utilise, par un manque de foi criminelle, en sa puissance. Ce sont des mots très forts que, perso, j'oserais presque pas les dire et les utiliser. Mais la vérité, c'est que nous devons nous poser la question, quand est-ce que nous allons commencer à prendre au sérieux, les conséquences pratiques, déterminantes du concept biblique du ministère universel de tous les croyants. Implication totale, c'est un programme très intéressant de la conférence générale. Mais il doit uniquement nous rappeler l'implication que le ministère universel de tous les croyants, que depuis toujours le Seigneur a mis pour nous faire grandir, qu'il est valable encore aujourd'hui. Quand est-ce que nous allons comprendre que nous avons besoin aujourd'hui partager pour que notre foi soit aussi, elle, beaucoup plus excitante et vivante. Quand est-ce que nous allons comprendre qu'il y a tellement de monde dans cette terre qui a besoin d'un message d'espérance, d'un message de salut qui transforme et d'un regard de compassion comme celui du Maître. Oui, implication totale. Que chacun de nous puisse comprendre que les défis qui sont là, et en particulier pour la Fédération France Nord avec Espérance 2019, n'est pas un événement en soi, mais c'est la continuité d'un ministère et d'une responsabilité que le Seigneur nous accorde chaque jour pour notre croissance spirituelle.